Les Nuits de France Culture. Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un animal vertébré de la classe des mammifères, de la sous-classe des monodelphiniens, du groupe des pisciformes, de l'ordre des cétacés, et de quelle famille ? Ah là, pour la famille, nous n'en savons rien encore. Nous ne tarderons pas à être fixés. Du reste, ce monstre est-il vraiment un animal ? Un îlot flottant, peut-être ? Une arme de guerre ? Nous savons bien sûr qui se cache à l'intérieur de ce monstre. Ou plus loin, sur quelque île déserte. Nous le savons parce que nous avons lu le roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Mais certains jeunes auditeurs, au début des années 60, ne connaissaient peut-être pas le roman, n'en avaient vu aucune adaptation cinématographique et allaient donc suivre l'adaptation radiophonique proposée sur France 3 Régionale avec une intense curiosité. L'aventure, la science, un personnage extravagant et tout-puissant. Voici les 5 premiers épisodes de ce feuilleton, 5 épisodes diffusés respectivement les 21, 24, 26, 28 et 31 juillet 1962.
« 20 000 lieues sous les mers » de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David. Aujourd'hui, premier épisode, avec Jean Duchesne, Henri Échourin, André Pomara, Fred Choussel, Gérard Brillanti, Jean-Simon Prévost, Paul Armand, Jean-François Schreiber. Réalisation Henri Soubéran.
Alors, que signifie cette histoire, capitaine Baker ? Vous avez été attaqué par un monstre marin, m'a-t-on dit ?
Le fait paraît extraordinaire, en effet, monsieur. Mais je ne vois pas d'autre explication à donner au phénomène dont nous avons été témoins.
Et pourquoi cette baleine géante ne serait-elle pas tout simplement un écueil ?
Inconnu. Ah,
jusqu'ici, rien d'impossible.
C'est ce que j'ai cru aussi au premier moment, monsieur. Et je me disposais à établir sa situation exacte. Mais au moment où je m'approchais de cette masse mouvante...
Où étiez-vous exactement ?
À 5 000 des côtes de l'Australie.
Alors, au moment où vous approchiez, disiez-vous ?
Oui, c'est alors que deux colonnes d'eau ont été projetées dans l'air par cet objet extraordinaire à une hauteur de 150 pieds. D'où venait cette eau, d'après vous, s'il s'agit d'un écueil ?
D'un geyser.
Un geyser qui serait entré en activité à notre approche. Non, monsieur. Depuis que je navigue, je connais la mer et cette réaction était une réaction animale.
Mais, capitaine Baker, vous semblez oublier que nous ne vivons plus au Moyen-Âge. Nous sommes en 1866 et le temps des monstres est passé.
Ces colonnes d'eau étaient mélangées d'air et de vapeur.
De vapeur animale, alors. Ah, voyez-vous, capitaine, il est bien dommage que vous n'ayez pas pu étudier de plus près ce phénomène. Nous ne serions pas aujourd'hui en train de perdre notre temps. Entrez.
Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais on nous signale que l'écueil signalé par le capitaine Baker a été observé par le Cristobal Colomb.
Quand cela ?
Le 23 juillet, paraît-il.
Où cela ?
Dans les mers du Pacifique.
Dans les mers du Pacifique ? Mais réfléchissez, c'est impossible. C'est le 20 juillet que nous l'avons rencontré nous-mêmes, 3 jours seulement avant le Cristobal Colomb.
Le rapport est formel.
Il faudrait à ce cétacé ou à ce monstre une incroyable vélocité pour parcourir en 3 jours 700 lieues.
Alors, quelle conclusion tirez-vous de ces faits, capitaine ?
Que quelqu'un se trompe.
Vous, par exemple ?
Ah non, c'est impossible.
Vous ne pouvez tout de même pas prétendre que le Cristobal a inventé cette histoire.
Peut-être existe-t-il plusieurs de ces monstres.
Un est déjà invraisemblable, mais plusieurs, ah non, non.
Alors, nous aussi, nous avons vu le monstre.
Vu, enfin, c'est une façon de parler.
Comment, mais le commandant du Pereire est formel.
Oui, oui. Et vous savez, les Anglais commencent à s'inquiéter.
Eh bien, mais les Américains et les Allemands, vous croyez que ça leur est égal ?
Non, mais pour eux, c'est différent. La mer n'est pas leur propriété.
Non, sérieusement, qu'est-ce que vous croyez que ça veut dire, tout ça ?
Qu'il y a un monstre effrayant qui sillonne les mers à la vitesse d'un boulet de canon.
Il y a aussi des coups de soleil.
Et des coups de whisky.
En tout cas, moi, j'aimerais joliment le voir, ce monstre.
Et moi, j'aimerais te voir le voir.
Mais voir quoi, d'abord ?
Eh bien, la baleine monstrueuse, apocalyptique, crachant du feu.
Ah non, 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 pas du feu dans l'eau, n'exagérons rien.
Bon, au point où nous en sommes.
Ce qui sera drôle, c'est quand ils découvriront que c'est un îlot ou un rocher.
Qui fuit quand on veut l'attraper et plonge à volonté. Pour un écueil, c'est un drôle d'écueil. Et pour une baleine, c'est aussi une drôle de baleine.
Voulez-vous m'annoncer, je vous prie ? Je suis le capitaine Anderson.
Et du Scotia ?
Oui.
J'ai ordre de vous introduire immédiatement, capitaine. Voulez-vous prendre la peine de me suivre ? Le capitaine Anderson.
Entrez, capitaine, je vous en prie. Alors ?
Alors, il est en cale sèche. Et ils sont en train de l'examiner. Nous aurons incessamment le résultat. D'ailleurs, je le connais.
C'est la cause qu'il faudrait déterminer.
Je doute qu'il soit capable de nous renseigner beaucoup.
Vous avez parlé d'un trou large de 2 mètres dans la carène.
Au moins 2 mètres.
Et comment une telle déchirure a-t-elle pu se produire sans provoquer un choc terrible ? Car vous avez bien dit, n'est-ce pas ?
Les passagers étaient rassemblés au salon et le heurt a été si peu sensible que personne ne s'en serait inquiété sans le cri des soutiers qui ont donné l'alarme en hurlant « Nous coulons, nous coulons ».
C'est vraiment une histoire extraordinaire.
Je connais la mer, je vous assure. Mais pareille aventure est effarante.
Et pourtant, vous vous rappelez ce qui est déjà arrivé en mars dernier au Moravian, sans avarie cependant.
Et l'année dernière, ces histoires de monstres marins ?
Oui, on a souri.
Si le Scotia n'avait pas été divisé en 7 cloisons étanches, nous n'aurions pas souri, je vous assure.
Oui, entrez. Ah, vous nous apportez vos conclusions, monsieur ingénieur.
Conclusions, c'est beaucoup dire. Nos constatations, tout au plus.
Alors ?
Alors, c'est stupéfiant. Vous avez à 2 mètres au-dessus de la flottaison une déchirure en forme de triangle isocèle et la cassure de la tôle est si nette qu'elle n'aurait pas été faite plus sûrement à l'emporte-pièce. L'outil perforant devait être non seulement en métal d'une trempe peu commune, mais il a dû être lancé contre votre coque avec une force prodigieuse.
Quelle épaisseur a cette coque ?
4 centimètres.
Ah, c'est fantastique.
Et ce qui est plus extraordinaire encore, c'est que cet outil a dû être non seulement enfoncé, mais qu'ensuite il a dû être retiré.
Mais c'est vrai, ça ? Alors, votre conclusion ?
Aucune. Nous sommes dépassés.
Enfin, écueil ou monstre ?
Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Ce mouvement de recul qui a permis à ce dard monstrueux de se retirer lui-même écarterait l'idée d'une roche flottante.
On ne peut pourtant pas imputer à un monstre que personne ne peut décrire les quelques 200 navires perdus chaque année sur les 3000 qui circulent.
C'est pourtant ce qui va arriver. L'opinion publique n'est pas si facile à endormir que vous l'imaginez. Et cette histoire commence à faire du bruit.
Et elle en fera bien davantage le jour où il y aura 250 passagers au fond de l'eau.
Avec leur capitaine, bien entendu.
Nous avons la responsabilité de la mer, messieurs. Et nous ferons tout pour que pareille catastrophe ne se produise pas. Nous sommes tout de même en 1867. Ne l'oubliez pas.
Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David. C'était aujourd'hui le premier épisode avec Jean Duchesne, Henri Échourin, André Pomara, Fred Choussel, Gérard Brilanti, Jean-Simon Prévost, Paul Armand, Jean-François Schreiber. Prise de son René Brézé, réalisation Henri Soubéran. Mille lieues sous les mers de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David. Aujourd'hui, 2e épisode avec Renaud Marie à Renax, Jean-Simon Prévost, conseil, André Pomara, le journaliste. Réalisation Henri Soubéran.
Mais entrez. Ah, c'est vous, conseil. Je vous avais dit que je ne voulais pas être dérangé.
Je sais et je fais mes excuses à monsieur, mais il y a là quelqu'un qui désire voir monsieur.
Qui est ce quelqu'un?
Un journaliste, monsieur.
Eh bien, qu'il aille au diable!
Il n'ira certainement pas, monsieur. Il est bien décidé à attendre que monsieur veuille bien le recevoir.
Qu'il attende, ça ne me gêne pas. Il peut aussi prendre une chambre d'hôtel s'il en a envie.
Il est assis dans l'entrée et il fume.
Savez-vous au moins à quel journal il appartient?
Oui, monsieur. Au New York Herald.
Eh bien, allez lui dire que je travaille et qu'il vous explique de quoi il s'agit.
Je le sais, monsieur. C'est au sujet du monstre.
Mais je ne l'ai pas vu plus qu'eux, moi, ce monstre. Bon, faites-le entrer.
Bien, monsieur.
Un visiteur ordinaire, on peut l'envoyer promener, mais un journaliste, c'est impossible. Mais entrez.
Monsieur le professeur Aronnax, du Muséum de Paris.
Oui, monsieur.
Oh, monsieur le professeur, combien je vous suis reconnaissant de bien vouloir m'accorder un peu de votre temps.
Que puis-je pour vous, monsieur?
Vous le devinez. Votre ouvrage, Les mystères des grands fonds sous-marins, vous confère une particulière autorité pour éclaircir un mystère qui passionne l'opinion publique, non seulement de l'Amérique, mais du monde entier.
Mais je suis incapable d'éclaircir quoi que ce soit. Et
si je suis bien informé, vous écartez cependant l'hypothèse d'un îlot flottant ou d'un écueil.
Simple question de bon sens, monsieur. Votre îlot ne flotte pas, il fonce. Pour parcourir aussi rapidement une telle distance, il faudrait supposer qu'il est agrémenté d'une machine prodigieuse.
Et vous repoussez pour la même raison l'idée d'une coque flottante ou d'une épave.
Bien entendu.
Alors, il ne reste pas beaucoup de solutions.
Si, deux au moins.
Ou le monstre d'une force colossale.
Ou bien, ce qu'imaginent certains, une sorte de bateau sous-marin d'une extrême puissance.
Mais oui. Mais cette explication soulève bien des problèmes. Comment un simple particulier aurait-il à sa disposition un pareil engin mécanique et pourquoi?
Ah, mais il pourrait appartenir à un gouvernement et constituerait alors une fameuse arme de guerre.
Mais les gouvernements de tous les pays s'inquiètent.
Eh oui, je sais. Ce n'est pourtant pas une preuve absolue.
Vous n'ignorez pas que des enquêtes ont été faites en Angleterre, en Russie, en France, en Prusse, en Espagne, en Italie, chez nous, en Amérique, voire même en Turquie.
D'ailleurs, comment la construction d'un tel bateau aurait-elle pu échapper à l'attention du public? Garder un pareil secret pour un État espionné par les autres puissances est impossible.
Alors, il reste le monstre, monsieur le professeur. Et c'est sur ce point que les lecteurs du New York Herald seront heureux d'avoir votre opinion. Car vous admettez l'existence du monstre.
Et pourquoi pas? Pourquoi la mer n'aurait-elle pas gardé dans ses profondeurs des échantillons de la vie d'un autre âge? Pourquoi ne cacherait-elle pas dans son sein les dernières variétés de ces espèces titanesques dont les années sont des siècles et les siècles des millénaires?
Donc l'Abraham Lincoln va bien avoir à se mesurer avec un monstre.
Ah non, je ne peux que le supposer. Mais ce monstre est capricieux. Car depuis que cette expédition contre lui est décidée, c'est-à-dire, je crois, depuis 2 mois, sa présence n'a été signalée nulle part.
Mais si, justement. Et je vois que j'aurai au moins le plaisir de vous apprendre quelque chose.
Ah oui?
Il paraît que le Tempico, qui assure la liaison San Francisco-Shanghai, a vu cet animal apocalyptique dans les mers septentrionales du Pacifique.
Ah ah. Ah, je l'ignorais en effet. Alors le commandant Farragut va donc pouvoir prendre le large.
Oh, incessamment. Il n'a qu'à allumer ses chaudières et à démarrer. Pas un homme ne manque, paraît-il, et le bateau regorge de vivres et de charbon.
Et le commandant ne doit pas être le moins pressé de tous de se mettre en route.
Certainement pas. Et il n'ignore pas qu'on ne lui aurait pas pardonné une demi-journée de retard.
Eh bien, peut-être ne tarderons-nous pas maintenant à être renseignés et nous verrons qui avait raison.
En tout cas, je vous remercie, monsieur le professeur, de m'avoir donné votre opinion aussi nettement. Et si ce n'est pas abusé...
Ah non. À présent, je ne vous dirai plus rien. Attendons les événements. Je vous demande de m'excuser, mais j'ai du travail.
Alors, toute ma reconnaissance pour votre bon accueil, monsieur le professeur.
Au revoir, monsieur. Ah,
Ah, quel voyage ils vont faire.
Oh non! Enfin, entrez.
Monsieur, on vient d'apporter cette lettre pour monsieur.
Y a-t-il une réponse?
Je ne sais pas, monsieur, c'est le portier qui me l'a donnée.
Alors, attends une seconde. Conseil.
Oui, monsieur.
Conseil, prépare-moi, prépare-toi, nous partons dans 2 heures.
Comme il plaira, monsieur.
Il n'y a pas un instant à perdre. Il me faut des objets de voyage, des habits, des chemises, et le tout en quantité suffisante. Et dépêche-toi.
Et les collections de monsieur?
On s'en occupera plus tard.
Quoi, les archiotériums, les iracotériums, et toutes les autres carcasses de monsieur?
Elles resteront à l'hôtel.
Et le babiroussa de monsieur?
Je ferai expédier en France toute notre ménagerie.
Nous ne retournons donc pas à Paris?
Si, certainement, mais en faisant un crochet.
Le crochet qu'il plaira, monsieur.
Un chemin un peu moins direct, simplement.
Comme il conviendra, monsieur.
Écoute ce qu'on m'écrit, conseil. Monsieur Aronnax, professeur au Muséum de Paris, Fifth Avenue, Hartle, New York. Monsieur, si vous voulez vous joindre à l'expédition de l'Abraham Lincoln, le gouvernement de l'Union verrait avec plaisir que la France soit représentée par vous dans cette entreprise. Le commandant Farragut tient une cabine à votre disposition. Très cordialement à vous, J.B. Hobson, secrétaire de la Marine. As-tu compris, conseil?
Oui, monsieur, nous prenons passage sur l'Abraham Lincoln.
Et tu sais qu'il s'agit de rechercher le monstre?
Oui, monsieur.
Nous allons en purger les mers?
Oui, monsieur.
Mission glorieuse, dangereuse même. Où nous entraînera-t-il? Ces bêtes-là peuvent être capricieuses.
C'est bien probable, monsieur.
Mais je me dois d'accepter. L'auteur des mystères des grands fonds ne peut se dispenser, puisqu'on le lui offre, de prendre part à cette expédition.
Comme monsieur fera, je ferai.
Le commandant Farragut, je le sais, n'a pas froid aux yeux. Aussi, je ne peux rien te cacher. C'est l'un de ces voyages dont on est pas sûr de revenir.
Comme il plaira à monsieur. Tout sera prêt dans 2 heures comme monsieur le désire.
Merci, conseil.
Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David. C'était aujourd'hui le 2e épisode. Avec Renaud Marie, Aronnax, Jean-Simon Prévost, conseil, André Pomara, le journaliste. Prise de son, René Brézé. Réalisation, Henri Soubéran. Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David. Aujourd'hui, 3e épisode. Avec Renaud Marie, Aronnax, Jean-Simon Prévost, conseil, Jacques Degore, Ned et Fred Choussel, Gérard Brillanti, Henri Échourin, Pierre Lisée, Jean-François Schreiber, Paul Armand. Réalisation, Henri Soubéran.
Le commandant Farragut?
En personne.
Pierre Aronnax.
Ah, soyez le bienvenu, monsieur le professeur, à bord de l'Abraham Lincoln. Votre cabine vous attend.
Je vous remercie, commandant. Mon domestique s'occupe des bagages. Dites-moi, nous allons faire un voyage passionnant.
Plus exactement, une chasse passionnante, monsieur le professeur. Hey, Wilson, sommes-nous en pression?
Oui, commandant.
Alors, go ahead.
Vous avez un bateau superbe, commandant.
Rien n'a été ménagé pour que nous réussissions.
Et la vitesse est importante avec un ennemi aussi rapide dans ses déplacements.
Nos appareils surchauffants permettront d'atteindre 18 000 et 3 dixièmes à l'heure.
Ah, évidemment. Mais...
Oui, je sais. Le monstre nous distancera rapidement.
Car pour vous, il s'agit bien d'un animal monstrueux, n'est-ce pas?
Aucun doute possible.
Ah.
D'ailleurs, tous mes hommes en sont convaincus, comme moi. Mmh.
C'est une partie de chasse, je vous dis, une partie de chasse pour laquelle nous sommes armés. Nous possédons tous les engins connus, depuis le harpon qui se lance à la main, jusqu'aux flèches barbelées des épingles et aux balles explosives des canardières. Et regardez à l'avant.
Oui, ah oui, oui, vous avez un magnifique canon.
Un canon américain, monsieur le professeur, qui peut envoyer sans se gêner un projectile conique de 4 kg à une distance moyenne de 16 km.
Eh bien, je vois que vous avez tout prévu.
Et nous avons à bord ce que vous ignorez encore, le roi des harponneurs, Ned Land. Tenez. Le voilà justement.
Hé, hey Ned!
Je viens, commandant.
Personne ne lui va à la cheville. Sans froid, audace, ruse. Il a toutes les qualités à un degré supérieur. Et il faudrait que notre monstre soit bien astucieux pour parvenir à échapper à son coup de harpon. Alors, Ned?
Oui, commandant.
Je te présente le professeur Aronnax qui part avec nous.
Professeur?
Ned est canadien.
De Québec.
Mais le Canada et la France sont toujours bons amis.
Et ils le resteront, monsieur le professeur.
Alors, vous êtes prêt à délivrer l'univers de ce monstre redoutable?
Si monstre il y a.
Ah oui, car il faut que je vous dise que sur ce bateau, Ned est le seul à ne pas croire à l'existence de cette baleine géante. Tout le monde la guette, l'attend, l'espère.
Enfin, vous admettrez tout de même bien qu'il s'est passé des phénomènes étranges.
Oh, je ne dis pas, professeur. Mais des baleines et des cachalots, j'en ai vu, vous savez. Pourtant, aucune n'a jamais fait un pareil raffut sur les mers.
Oh, il ne s'agit certainement pas d'une espèce commune. Mais pour que nous puissions dire à quel groupe cet animal appartient dans l'ordre des cétacés, il faut que nous puissions le disséquer. Et par conséquent, il faut que vous, vous l'attrapiez. Votre rôle dans cette aventure est donc essentiel.
Il faudrait d'abord l'apercevoir.
Ça, c'est l'affaire de tout le monde.
Et à condition qu'on puisse l'approcher.
Alors là, mon vieux, c'est le hasard.
Je pense, commandant, que vous aiderez le hasard.
Monsieur le professeur, ou le commandant Farragut tuera le narval, ou le narval tuera le commandant Farragut.
Ouvre l'œil, mon vieux.
Toi aussi, ouvre l'œil.
$2,000 à celui qui l'apercevra le premier.
C'est bon à prendre.
Ah oui, c'est bon à prendre. Mais même s'il n'y avait rien à gagner, je chercherai cette sale bête.
Alors, commandant, décidément, vous avez affaire à un gibier qui se laisse difficilement surprendre.
On l'aura quand même.
Dites-moi, nous arrivons au détroit de Magellan.
Oui, et nous ne sommes que le 3 juillet. Nous avons bien marché.
Mais dans le détroit, nous irons sans doute moins vite.
Je n'ai pas l'intention de m'y engager.
Ah non?
Nous allons doubler le Cap Horn, car ceux qui estiment que le monstre ne pourrait pas pénétrer dans ce passage à cause de sa grande taille n'ont peut-être pas tort.
Et là, vous autres, regardez un peu ce sillage.
Mais c'est vrai. Vous voyez cette longue ligne qui blanchit la mer? Hé, Conseil.
Monsieur.
Conseil, tu vois ce que je veux dire?
Oui, monsieur, je vois. Je vois même mieux que monsieur.
Et pourquoi ça, je te prie?
Parce que si monsieur voulait avoir la bonté de moins écarquiller les yeux, monsieur verrait bien davantage. D'ailleurs, une fois de plus, monsieur peut constater que ce n'est rien.
Oh, ça va, fiche-moi la paix. Cherche-la, ta bête. Moi, j'y renonce.
Depuis 3 mois qu'on bourlingue, on n'a seulement pas vu sa queue.
Et on a l'air de quoi, se balader comme ça? D'idiot, oui. Je vous ai réunis parce que je sais qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas.
On ne peut pas trouver un monstre qui n'existe pas.
Qui ne se montre pas, vous voulez dire. Car pour exister, il existe.
Mais qui ne se montre pas ou qui n'existe pas, pour nous, c'est pareil.
Dans ces conditions, nous allons prendre une décision. Si dans 3 jours, l'animal que nous cherchons n'a pas paru, eh bien l'homme de barre donnera 3 tours de roue et l'Abraham Lincoln reprendra la route des mers européennes. C'est dit. Vous pouvez disposer.
Alors, conseil, c'est demain le 5 novembre?
Oui, monsieur.
Et c'est demain à midi qu'expire le délai fixé par le commandant?
Oui, monsieur.
Tu as encore cette soirée et la matinée de demain pour empocher les $2,000.
Que monsieur me permette de lui dire que je n'ai jamais compté sur cette prime.
Ah?
Le gouvernement aurait pu aussi bien promettre $100,000, il n'en aurait pas été plus pauvre.
Mais tu as raison. Tu as raison, nous nous sommes peut-être lancés un peu légèrement dans cette aventure.
Pourtant, nous serions rentrés maintenant à Paris, dans le petit appartement de monsieur, dans le muséum de monsieur, et j'aurais classé les fossiles de monsieur.
Eh oui, et je ne serais pas étonné que par-dessus le marché, on se moque de nous.
Effectivement, monsieur, et monsieur n'aura que ce qu'il mérite.
Ah, vraiment?
Oui, quand on a l'honneur d'être un savant comme monsieur. On ne s'expose pas.
Hé, les gars! Regardez!
Mais c'est Ned qui appelle.
Regardez la chose en question. Elle est là! Sous le vent! Par le travers de nous! Oui, c'est elle!
Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David. C'était aujourd'hui le troisième épisode avec Renaud Marie à Renax, Jean-Simon Prévost Conseil, Jacques Degore Ned et Fred Choussel, Gérard Brillanti, Henri Échourin, Pierre Lisée, Jean-François Schreiber, Paul Armand. Prise de son René Brézé. Réalisation Henri Soubéran. Mille lieues sous les mers de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David. Aujourd'hui, quatrième épisode avec Renaud Marie, Aronax, Jean-Simon Prévost Conseil, Jacques Degore Ned et Fred Choussel, Henri Échourin, Gérard Brillanti, André Pomara, Paul Armand, Pierre Lisée, Jean-François Schreiber. Réalisation Henri Soubéran.
La chose en question, elle est là, là, sous le vent, par le travers de nous. Oui, c'est elle.
Oh,
mais on ne voit rien avec cette obscurité.
Encore une blague.
Mais non, là, regardez.
Oh oui, quelle lumière.
Ce n'est qu'une agglomération de molécules phosphorescentes.
Non, capitaine, jamais les pholades et les salpes n'émettent une lumière aussi puissante. Dans cet éclat est de nature essentiellement électrique. D'ailleurs, voyez, l'objet en question se déplace. Il se meut d'avant en arrière. Oh! Oh, il s'élance sur nous!
Silence! La barre au vent, toute! Machine arrière! La barre droite! Machine avant!
Regardez! Il revient sur nous! Attention!
Il va deux fois plus vite que nous!
Mais d'où vient toute cette lumière?
Ah, ils sont là. Non, il revient.
Mais oui, il s'est arrêté.
Et la lumière est partie. Il s'est enfoncé même.
Mais non, il s'est simplement éteint.
Le voilà de l'autre côté.
Mais il n'a pourtant pas tourné autour de nous.
Non, il a passé dessous.
Comment ça, il est passé
Commandant, vous n'allez donc pas l'attaquer?
Non, monsieur le professeur.
Je me rends compte que nous avons affaire à un monstre formidable et je ne veux pas mettre ma frégate en péril par cette obscurité. Attendons le jour et les rôles changeront.
Je pense que vous n'avez plus de doute sur la nature de l'animal.
Non, c'est un gigantesque narval, mais un narval électrique.
Qu'on ne peut peut-être pas plus approcher qu'une torpille.
C'est possible. Et s'il possède une puissance foudroyante, c'est certainement le plus terrible animal imaginé par le Créateur. C'est pourquoi la prudence s'impose.
Quelle heure est-il ?
Minuit.
Oh ! Il s'éteint encore. Où va-t-il réapparaître ?
Tu vois quelque chose ?
Non, rien. Il doit avoir filé cette fois.
Ah, dommage.
Dommage, c'est une autre question. Quelle heure est-il maintenant ?
Presque une heure.
Ah, cette fois, il est sûrement parti, car... C'est lui ! Mais où est-il ?
Ned Land.
Commandant.
Est-ce que tu as souvent entendu rugir des baleines de cette façon ?
Souvent, commandant. Mais jamais de pareilles baleines dont la vue m'est rapportée $2,000.
C'est vrai. Tu as droit à la prime. Mais c'est bien le bruit, n'est-ce pas, que les cétacés font en rejetant l'eau par leurs évents ?
Le même, commandant, mais incomparablement plus fort. Et aucun doute n'est possible maintenant. C'est bien un cétacé qui tient nos eaux. Et avec votre permission, commandant, nous lui dirons deux mots demain, au lever du jour.
Faudra-t-il mettre une baleinière à ta disposition ?
Sans doute, commandant.
Ce sera jouer la vie de mes hommes.
Et la mienne également. Quelle heure est-il ?
6 heures.
Le jour se lève, mais on ne voit plus l'animal.
Il est éteint, mais il est certainement toujours là.
Il faudrait que ce brouillard se lève. On est dans du coton.
Bah regarde, ça commence à s'éclaircir à droite. La chose en question part d'abord ! Venez voir !
Alors, Conseil, es-tu convaincu maintenant ?
Je sais que monsieur ne se trompe jamais.
Ce que tu vois là, c'est un animal vertébré, classe des mammifères. Sous-classe des monodelphiens, groupe des pisciformes, ordre des cétacés, famille de... Alors là, pour la famille, je ne sais pas encore. Baleine, cachalot, dauphin, tout est possible. Mais nous ne tarderons pas à être fixés.
Vous avez de la pression ?
Oui, commandant.
Bien, forcez vos feux et à toute vapeur. Il va aussi vite que nous.
Ne le rattraperons jamais.
Madeleine. Voyez-vous encore que je dois mettre mes embarcations à la mer ?
Non, non, cette bête-là ne se laissera prendre que si elle le veut bien.
Alors ?
Forcez la vapeur, commandant, si c'est possible. Et si nous arrivons à bonne longueur, je harponne.
Alors préparez-vous. Faites monter la pression !
Oh, il file exactement comme nous.
Il faut en finir, pourtant. Ce n'est pas votre maximum de pression ?
Si, commandant.
Et vos soupapes sont chargées ?
À 6 atmosphères et demie.
Chargez-les à 10 !
Conseil.
Oui, monsieur.
Sais-tu que nous allons probablement sauter ?
Monsieur a sûrement raison.
Oui, nous le gagnons ! Nous le gagnons ! Oh ! Il a pris de la vitesse ! Eh bien, si nous ne pouvons pas l'attraper, nous, nos boulets coniques l'attendront. Mettez vite tes hommes à la pièce de l'avant !
Il l'a touché !
Oui,
mais le boulet a glissé dessus ! Et il a filé dans la mer.
Cet animal-là est donc blindé avec des plaques de 6 pouces.
Malédiction, mais je le poursuivrai jusqu'à ce que ma frégate éclate. Il s'est arrêté. Ah, cette fois, nous l'avons. Allez-y doucement, maintenant. Pas de bruit.
Pourquoi ? Il dort ?
Eh oui, ça arrive plus souvent qu'on ne pense. J'en ai harponné plus d'une qui dort même.
Alors c'est à toi, Ned.
Oui, commandant.
Ne lui laisse pas le temps de reprendre ses esprits.
Bon, attention. Encore un peu plus près, s'il vous plaît. Là. Voilà.
Attention, attention, il vient sur nous. Voilà.
Ah,
20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David. C'était aujourd'hui le 4e épisode. Avec Renaud Marie à Renax, Jean-Simon Prévost Conseil, Jacques Degore Ned et Fred Choussel, Henri Échourin, Gérard Brilanti, André Pomara, Paul Armand, Pierre Lisée, Jean-François Schreiber. Prise de son René Brézé, réalisation Henri Soubéran. Mille lieues sous les mers de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David. Aujourd'hui, 5e épisode. Avec Renaud Marie à Renax, Jean-Simon Prévost Conseil, Jacques Degore Ned. Réalisation Henri Soubéran.
À moi! À moi! Au secours! Je me noie! À moi, au secours!
Si monsieur veut bien s'appuyer sur mon épaule, monsieur nagera plus facilement.
Comment? Conseil, c'est toi?
Moi-même, toujours aux ordres de monsieur.
C'est ce choc. C'est ce choc terrible qui t'a précipité aussi dans la mer. J'ai essayé de me rattraper.
Non, mais étant aux ordres de monsieur, j'ai suivi monsieur.
Ah, mon brave Conseil. Comment te remercier? À nous deux, nous allons nous en tirer peut-être. Tandis que moi seul, j'étais perdu. Mais, Conseil, où est donc la frégate?
Je crois que monsieur fera bien de ne pas trop compter sur elle.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis?
Oui, au moment où je me suis jeté à l'eau pour suivre monsieur, j'ai entendu les hommes de la barre crier « l'hélice et le gouvernail sont brisés
brisés !»
Oui, par les dents du monstre.
Alors la frégate ne gouverne plus?
Non.
L'Abraham Lincoln ne peut plus gouverner, mais enfin, il peut tout de même envoyer les embarcations.
S'ils parviennent à nous découvrir et si nous pouvons tenir jusqu'à ce qu'ils arrivent ici, peut-être.
Il faut essayer. Écoute,
oui.
nous nagerons à tour de rôle pendant 10 minutes chacun. Et celui qui nagera poussera l'autre qui n'aura qu'à rester immobile sur le dos, les bras croisés et les jambes allongées. Hein?
Comme monsieur voudra.
Bon. Et pour ménager nos forces, parlons le moins possible. Non, Conseil, non. Non, tu n'en peux plus. Laisse-moi.
Abandonner, monsieur? Jamais. Je compte bien me noyer avec monsieur.
Cette ombre là-bas, c'est bien la frégate?
Oui, monsieur.
Et tu ne vois aucune embarcation?
Non, aucune.
Voilà. Essayons d'appeler. Au secours!
À nous!
Tu as entendu?
Oui.
C'est eux.
Peut-être. À nous! À nous!
Ah! Ah, cette fois, quand?
Que monsieur essaie de se maintenir un moment.
Oui.
Je vais me soulever.
Oui. Ah. Ah. Qu'est-ce que tu as vu?
J'ai vu.
Tu as vu le monstre?
Je ne sais pas.
Mais un monstre ne parle pas.
À nous! À nous!
Oh! Oh!
Conseil, je me noie. Qu'est-ce que c'est?
Je crois que monsieur revient à lui.
Conseil?
Oui, monsieur, je suis là.
Mais Conseil, où sommes-nous? C'est un canot, hein? Non, c'est... Oh, mais qui est là? Ah, c'est Ned.
Oui, monsieur, Ned en personne, qui court après sa prime.
Mais où sommes-nous, Ned?
Sur un îlot flottant.
Un îlot?
Oui, ou plutôt, je crois, sur votre gigantesque narval.
Mais voyons, Ned, c'est impossible.
Si, monsieur le professeur, et je sais pourquoi mon harpon s'est émoussé sur sa peau. Cette bête-là, monsieur le professeur, est faite de tôle d'acier.
Oui, et que monsieur sente sur quoi il est étendu.
Oui, c'est dur, évidemment, mais... Mais pourquoi un animal antédiluvien n'aurait-il pas une carapace osseuse qu'un harpon ne peut entamer?
Une carapace osseuse faite de plaques boulonnées, monsieur le professeur. Je n'ai jamais vu ça.
Et que monsieur entende quand je frappe avec mon couteau.
Mais alors... Il ne s'agit pas d'un animal.
Non, monsieur le professeur. Nous sommes certainement sur le sommet d'une sorte de bateau sous-marin.
Mais c'est prodigieux.
Depuis 3 heures que je suis installé ici, j'ai pu me rendre compte des lieux. Ce bateau, autant qu'il est possible d'en juger dans cette obscurité, a la forme d'un immense poisson d'acier.
Alors, je m'attendais bien à me trouver en face d'un être fabuleux dont l'origine se serait perdue dans la nuit des temps, mais certainement pas en face d'une construction humaine.
Aucun doute n'est pourtant possible.
Et depuis que vous êtes là, le bateau n'a pas bougé?
Non, pas plus que maintenant.
Nous savons cependant quelle vitesse il peut atteindre. Mais dites-moi, cet appareil renferme donc des machines? Et un équipage. Alors nous sommes sauvés.
Ça, c'est une autre question. Alors, oula, mais c'est que nous partons.
Que monsieur vienne ici, c'est la partie la plus élevée.
S'il veut bien naviguer horizontalement, ça ira encore.
Oui, mais s'il lui prend la fantaisie de plonger, et nous savons qu'il en est capable...
Ça, notre situation se compliquera singulièrement.
Ou se simplifiera, hélas.
Oui, nous plongerons aussi. Et alors?
Heureusement, le jour ne va pas tarder à se lever et nous pourrons peut-être mieux nous rendre compte.
Je regrette de ne pas apporter à monsieur son petit déjeuner comme je le fais depuis tant d'années.
Oh, je le regrette aussi, crois-moi bien, Conseil. Oh, mais l'eau monte!
Oui, il n'y a pas de doute. Cette fois, nous plongeons.
Mais enfin, s'il y a un équipage dans cet appareil, personne ne sait que nous sommes ici. Mais il faut les prévenir. Nous ne pouvons pas nous laisser engloutir de cette façon.
Hé là! Navigateur peu hospitalier! Ouvrez-nous! Mille diables!
Mais comment voulez-vous qu'ils nous entendent avec ce vacarme?
Ils n'entendront peut-être pas les cris, mais ces coups de pied sur leur sale carcasse, ils l'entendront, j'espère. Ou alors ils s'en s'ouvrent!
Ah! Quelqu'un, enfin!
Quelqu'un, oui. Mais ami ou ennemi?
Alors quoi, il s'en va?
Non, mais il a été chercher du renfort. Tenez. Tenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quelle escorte!
Il doit faire chaud à l'intérieur. Ils ont peur de s'enrhumer, c'est pourquoi ils ont des masques.
Attention, ils nous font des signes.
Oui, suivons-les, mes amis. Je crois que c'est ce qu'ils veulent.
Et notre situation est si précaire que nous aurions tort de refuser leur hospitalité.
Nous n'avons pas le choix, en effet.
Mais que monsieur prenne garde, l'escalier est très raide.
Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne. Adaptation radiophonique de Jeanne-Maxime David.
C'était aujourd'hui le 5e épisode avec Renaud Marie, Aronnax, Jean-Simon Prévost, Conseil, Jacques Degore, Ned, prise de son René Brézé, réalisation Henri Soubéran.
Amis ou ennemis, les auditeurs de France 2 Régionale purent suivre ces 5 premiers épisodes de 20 000 lieues sous les mers les 21, 24, 26, 28 et 31 juillet 1962. À vous de vous replonger dans le roman de Jules Verne, ne serait-ce que pour rencontrer, enfin, le capitaine Nemo. D'ici là, vous pouvez réécouter ces épisodes en ligne ou les télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».